Ésope, le philosophe, par Octave Béliard. Il était une fois. C'est par cette phrase rituelle que débutent invariablement les contes dont notre enfance fut bercée. Et l'on est bien tenté de commencer par cette même phrase le récit de la vie d'Ésope, non seulement parce que l'histoire y tient infiniment moins de place que la légende, jusqu'à ce point même que l'existence du fabuliste comme celle d'Homère a été mise en doute, mais encore parce qu'Ésope s'offre à nous avec tous les caractères d'un héros de conte, d'un de ces personnages généralement d'aspect chétif, mais d'un esprit subtil, que les conteurs nous font voir débrouillant les énigmes et évitant les pièges auxquels se laissent prendre des hommes considérablement plus puissants, plus avantagés par la fortune et la nature. Le fait est que les fables attribuées à Ésope, et qui lui ont valu l'immortalité, dont notre bon La Fontaine s'est si souvent inspiré, n'ont même pas été écrites par Ésope lui-même, mais se sont transmises après lui par tradition orale, dans les milieux populaires de la Grèce, durant de nombreuses années, avant qu'en fût rédigé un texte définitif. Et le fabuliste était mort depuis 18 siècles, quand un moine grec, nommé Planude, s'avisa de recueillir les récits que l'on faisait de lui pour en composer la seule biographie à laquelle nous puissions nous référer, et dont l'authenticité est beaucoup moins certaine que le charme naïf. On croit donc qu'Ésope naquit environ 600 ans avant Jésus-Christ, dans un bourg de Phrygie nommé Amorium, d'où il est appelé Ésope le Phrygien, bien que certains auteurs lui donnent pour patrie Mésembrie en Thrace, Sardes en Lydie, ou même quelques villes d'Égypte. C'est ainsi que cette cité se dispute la gloire d'avoir fait naître Homère. Quoi qu'il en soit, Ésope était un affreux petit bossu, fort laid même de visage, tellement bègue que dans son enfance, la difficulté qu'il avait à parler le faisait prendre pour un idiot. Et pour comble d'infortune, il était esclave, employé aux travaux des champs par un maître grossier. Son esprit se révéla un jour que des compagnons d'esclavage, ayant mangé des figues destinées au maître, accusèrent du larcin l'enfant que son infirmité de parole empêchait de se disculper. Sur le point d'être battu, Ésope imagina de se faire vomir et montre ainsi qu'il n'avait pas mangé les figues, tandis que ses accusateurs, soumis sur son indication à la même épreuve, rejetèrent aussitôt le corps du délit. Le lendemain de cette aventure, il en arriva une autre encore plus heureuse. Des prêtres de Diane, qui s'étaient égarés, demandèrent au petit bossu de les remettre en leur chemin et, touchés de son empressement courtois, le bénirent. L'effet de cette bénédiction fut qu'Ésope s'endormit, rêva que la fortune lui apparaissait et lui déliait la langue. On pensera ce que l'on voudra de ce songe miraculeux. On sait aujourd'hui que la suggestion accomplit des prodiges. Toujours est-il qu'à son réveil, Ésope ne bégayait plus et qu'il ne bégaya plus jamais par la suite. Sur ces entrefaites, l'adolescent fut offert à un marchand d'esclaves qui ne se montra guère tenté par une marchandise de si piètre mine. Mais Ésope le prit à part et lui dit « Achète-moi. Si tu as des enfants méchants et qui crient, je servirai à leur faire peur. » L'homme éclata de rire et acquit l'avorton pour 3 oboles, ce qui en francs or équivaudrait à peu près à 50 centimes. Il n'avait pas fait un mauvais marché. Le trafiquant se rendait à Éphèse avec son lot d'esclaves à vendre. On faisait la route à pied par étapes, et chaque esclave devait porter sur son dos une partie des bagages. Ésope réclama pour lui le fait le plus lourd. C'était la provision de pain. Il avait judicieusement calculé que chaque repas allégerait son fardeau, et en effet, grâce à sa subtilité, il se vit progressivement déchargé, tandis que la fatigue de ses compagnons allait en augmentant, et arriva à la ville les mains vides, comme un touriste. À Éphèse, à la fin du marché des esclaves, il ne restait plus à vendre qu'un chantre pour lequel le marchand demandait 1000 oboles, un grammairien pour lequel il en voulait 3000, et notre bossu dont les grimaces avaient effrayé tous les chalands. Le philosophe Xanthus se présenta comme acheteur. Il demanda au chantre et au grammairien ce qu'ils savaient faire. « Tout, » répondirent ceux-ci. « Et toi ? » demanda-t-il au bossu. « Rien. » La réponse amusa Xanthus qui acheta Ésope pour 60 oboles. La difficulté fut de faire admettre la nouvelle emplette à la femme du philosophe, qui s'écria qu'elle aimait mieux divorcer que d'avoir sous son toit un monstre aussi laid. mais Ésope fit tant par son esprit et ses grimaces qu'à la fin tout s'arrangea tant bien que mal. Les traits spirituels rapportés d'Ésope se comptent par milliers. Un jour, un jardinier à qui Xanthus avait acheté une salade demanda à ce philosophe de lui expliquer pourquoi la terre ne produisait qu'à regret et à force de travail les légumes dont il lui confiait les graines, tandis qu'elle faisait pousser avec tant de générosité les herbes sauvages et inutiles. Comme Xanthus balbutiait une réponse embarrassée, Ésope prit la parole et dit à peu près « Cette question indigne du maître doit être résolue par l'esclave. Voici. Il est ordinaire qu'une mère à qui l'on confie les enfants que son mari a eus d'une autre femme les prenne en aversion et rogne sur leur nourriture pour en faire profiter les siens. Quoi d'étonnant si la terre est marâtre pour les fruits qui lui sont imposés par la culture et mère passionnée pour ceux qu'elle fait naître elle-même dans son sein. » Une autre fois, Xanthus confia des friandises à son esclave en lui disant « Va les porter à ma bonne amie. » Il appelait ainsi sa femme. Mais Ésope feignit de se méprendre et alla porter les bonbons à la chienne de son maître. Ce geste amena une explication orageuse au cours de laquelle le spirituel bossu, prenant une attitude faussement naïve, déclara qu'il n'avait pas pu croire que ce titre de bonne amie puisse appliquer à une femme querelleuse et insupportable, mais qu'il convenait bien plutôt à un charmant animal qui répondait au coup par des caresses. Et comme la femme de Xanthus, outrée de cette impertinence complaisamment écoutée par son mari, s'était de colère, retirée chez sa mère, au grand émoi de l'époux qu'il aimait malgré ses violences, ou qui peut-être tenait à sa dot, c'est encore Ésope qui trouva le moyen de la ramener au foyer conjugal. Il acheta ouvertement des victuailles comme pour un festin considérable, et répandit le bruit que son maître allait épouser une autre femme. Ce stratagème excita tellement la jalousie ou le dépit de la fugitive qu'elle rentra immédiatement à la maison, non sans garder une dent à ce détestable bossu, à ces méchants gnomes, à la vérité, qui savaient embarrasser tout le monde et son maître lui-même, et dont il était impossible de se débarrasser. Toutes ces anecdotes accréditées par La Fontaine dans sa vie d'Ésope sont connues, et la plus connue est encore l'histoire des langues qu'il accommoda à diverses sauces, en hors d'œuvre, en entrée, en rôt, en salade, en entremets. Si bien que les convives, d'abord satisfaits, prirent à la longue de l'humeur de voir toujours la même viande. Et sommé furieusement de s'expliquer, Ésope fit un discours pour démontrer que rien n'est meilleur que la langue. La langue, organe de communion entre les hommes, la langue, organe de la vérité et de la raison, la langue mère du savoir, la langue qui soumet les humains et prie les dieux, la langue qui, la langue que. Momentanément désarmé par cette éloquence, Xanthus feignit d'accepter la leçon, mais pour embarrasser le sermonneur, lui ordonna de servir le lendemain aux mêmes invités tout ce qu'il y avait de pire. Le malheureux bossu ne servit encore que des langues. La langue, dit-il, n'est-elle pas ce qu'il y a de pire? Langue qui sert aux querelles, qui allume les guerres, qui répand les médisances et les calomnies, qui trahit, qui blasphème, qui... Le philosophe, agacé, demanda alors à son esclave de lui trouver un homme qui ne se mit en peine de rien. Ésope amena un rustre à qui on lava les pieds et à qui l'on donna à manger avec toutes sortes de respect sans parvenir à l'étonner. Et tout le temps du repas, Xanthus s'ingénia, sans y réussir, à faire sortir ce paysan de son mutisme et de son flegme. À la fin, on servit un gâteau que la femme de Xanthus avait fait, et le philosophe s'écria « Que ce gâteau est mauvais !»« Cette femme ne fait rien qui vaille, je vais la brûler, qu'on apporte les fagots !» Le rustre répondit placidement, la bouche pleine « Attendez que j'aille chercher ma femme, on ne fera qu'un bûcher pour toutes les deux !» Ésope eut donc le dernier mot. C'est encore lui, qui a un magistrat rencontré qui lui demandait où il allait, répondit qu'il n'en savait rien. Le magistrat prit la réponse pour une insolence et fit conduire Ésope en prison. « Eh bien, dit le bossu, n'avais-je pas raison? Pouvais-je savoir qu'on me mènerait là ?» Xanthus eut souvent se louer de son esclave, notamment la fois où le philosophe, pris de boisson, fit imprudemment le pari de boire toute la mer et donna en gage un anneau précieux qu'il portait à son doigt. Dégrisé et confus, il fut mis en demeure, pour entrer en possession de son anneau, de tenir son pari devant un grand concours de témoins. Ésope le tira de ce mauvais pas en lui suggérant de dire qu'il n'avait promis que de boire la mer, mais non pas tous les fleuves qui se jetaient dedans, et qu'il ne se mettrait à la besogne que quand on en aurait détourné leur cours. Doué d'un esprit aussi éveillé, Ésope supportait mal la condition d'esclave. Aussi mettait-il en œuvre toutes les ressources de son intelligence et tout son talent de persuasion pour décider son maître à l'affranchir. Mais Xanthus, qui tirait vraisemblablement de l'orgueil de la possession d'un si plaisant bouffon, s'y refusa pour longtemps. Il fallut un prodige public et l'intervention du peuple pour l'y décider. Les Samiens furent peu après attaqués par Crésus, roi de Lydie, et les conseils d'Ésope leur permirent de se défendre efficacement, à ce point que l'envahisseur offrit la paix moyennant qu'Ésope lui fut livré. Les gens de Samos s'inclinaient à accepter cette condition. Ésope les en dissuada en leur racontant une fable. « Les loups et les brebis ayant fait la paix, leur dit-il, les brebis donnèrent aux loups leurs chiens pour otage. Or, quand elles n'eurent plus leurs défenseurs, les loups les dévorèrent. » Néanmoins, il consentit à aller trouver Crésus, non comme otage, mais comme ambassadeur. Il fit séjour à la cour de Lydie, y composa une partie de ses fables, traita de la paix et revint en triomphateur à Samos. C'est à dater de ce temps qu'il se mit à voyager par le monde. On le retrouve en grand crédit près d'un roi de Babylone que son biographe, le moine Planude, appelle Lycérus. Après de nombreux voyages, le fabuliste s'en retourna, chargé de présents vers le roi de Babylone, qui fut si content de le voir qu'il lui éleva une statue. Mais Ésope se faisait vieux, et il ne voulait pas mourir sans avoir revu la Grèce, sa patrie. Il passa ses derniers temps à y voyager, et y fut généralement reçu partout avec honneur. Une seule ville, Delphes, ne lui fit pas l'accueil auquel sa célébrité l'accoutumait. Ésope, sur l'âge, était devenu quelque peu susceptible. Il se vengea des Delphiens par une plaisanterie qu'ils jugèrent de mauvais goût, les comparant à des bâtons flottants qui, de loin, paraissent quelque chose et de près ne sont rien. La colère des Delphiens les conduisit à méditer la mort du mauvais plaisant, ce qui est vraiment une punition fort excessive. Et voulant donner un prétexte à cette exécution, ils cachèrent dans les bagages d'Ésope un vase sacré de leur temple qu'ils l'accusèrent d'avoir volé. Malgré toute sa présence d'esprit, Ésope ne sut pas se défendre contre cette calomnie. Il eut beau raconter de jolies fables, on ne l'écouta point. Il tenta de s'échapper et se réfugia dans une chapelle dédiée à Apollon, demeure sacrée, lieu d'asile, dont il pensait qu'on n'oserait pas l'arracher. Les Delphiens l'y poursuivirent cependant et le précipitèrent du haut de la roche Iampé, qui servait au supplice des sacrilèges. Dans les jours qui suivirent sa mort, une peste qui ravagea Delphes fut considérée comme l'effet du courroux des dieux. L'oracle consulté prescrivit d'élever aux mânes d'Ésope un monument expiatoire, et les Athéniens commandèrent plus tard au sculpteur Lysippe une statue du fabuliste qui fut placée en face de celle des sept sages de la Grèce. Les fables d'Ésope circulèrent de bonne heure en Grèce. Au temps de Socrate, un recueil en avait déjà été fait. C'est à Démétrius de Phalère que revient l'honneur d'en avoir réuni la collection complète, et dans cette collection puisera même bien des conteurs de fables, Babrias, Phèdre, les auteurs du Moyen-Âge. Les fables d'Ésope, en texte grec, que traduisent encore aujourd'hui les jeunes hellénistes de nos lycées, sont une compilation rassemblée par Planude, le même moine grec à qui est due la vie, tout aussi fabuleuse, que nous venons de résumer. Et tous les petits Français savent par cœur les avançons charmants de l'antique et immortel Bossu, puisque La Fontaine a habillé des grâces françaises, les meilleures d'entre elles, en avouant gentiment ses emprunts dans le premier vers de sa dédicace au dauphin. Je chante les héros dont Ésope est le père. Ainsi s'achève Ésope le philosophe par Octave Béliard.